La mêlée de l'info. Une émission de débat sur l'actualité nationale, animée par Éric Dupri. La mêlée de l'info. Une émission de débat sur l'actualité nationale, animée par Éric Dupri.
Bienvenue à tous à l'écoute de ce 35e numéro de la mêlée de l'info pour un nouveau débat consacré à l'actualité nationale récente. Je reçois ce soir Daniel Cabanis, universitaire, ancien professeur de la faculté de droit de Toulouse, chroniqueuse sur Radio Présence. Annie Thomas, secrétaire générale du site Les Clés du Social, ex-secrétaire nationale de la CFDT et ex-présidente de l'UNEDIC. Et enfin Philippe Faureau, universitaire, historien, également chroniqueur sur Radio Présence. Bienvenue aussi à tous les trois et merci d'avoir accepté mon invitation. Qu'on le veuille ou non, Napoléon demeure un de nos quatre ou cinq grands mythes nationaux et une des figures les plus marquantes de l'histoire de l'Europe, pour ne pas dire du monde. N'oublions pas non plus que bon nombre de nos institutions actuelles sont issues du Premier Empire ou doivent beaucoup à celui-ci. Seulement voilà, le personnage Napoléon fascine autant qu'il clive, dérange dans son propre pays, surtout à une époque, la nôtre, où la France est souvent sommée de battre sa coulpe sur son histoire passée. Demain, le 5 mai, pour la commémoration du bicentenaire de la mort de l'empereur, le président de la République Emmanuel Macron va prononcer un discours à l'Institut de France avant de déposer une gerbe aux Invalides sur le tombeau de celui que certains voient comme le symbole de notre grandeur perdue et que d'autres considèrent comme un dictateur responsable de guerres sanglantes ayant entaché durablement l'image de la France en Europe. Nous allons débattre de l'héritage napoléonien lors de cette émission entièrement consacrée au souvenir de l'empereur. Et pour commencer, je vais vous demander à tous les trois, chers invités, vous qui connaissez bien et le personnage et son histoire, la relation que vous entretenez à titre personnel avec l'épopée napoléonienne, avec le mythe Napoléon. Et on va commencer avec Daniel Cabanis. Alors c'est très bien parce que vous êtes d'origine suisse. Vous êtes neutre. On peut le dire.
Bah, je ne dois pas être vraiment tout à fait suisse parce que je ne suis pas neutre. Mais en tant que Suissesse, j'aurais peut-être une position à laquelle des Français ne penseront pas. La Suisse doit à Napoléon d'avoir pacifié l'échec de la République helvétique. Parce que quand les troupes révolutionnaires sont arrivées, ils ont fait une copie conforme du système français avec un directoire qui n'avait rien à voir avec les habitudes locales et qui n'a pas fonctionné. Et Napoléon a eu l'intelligence de dire « ce n'est pas possible, il faut rétablir un système de type fédéral » et ça a été l'acte de médiation qui a ensuite permis à la Suisse d'évoluer vers ce qu'elle est devenue par la suite, avec des réformes en profondeur bien évidemment. Mais à ce titre-là, il a évité, je crois, la poursuite de conflits et ça a contribué à ce qu'en Suisse, on n'ait pas autant que dans mon pays d'adoption, des clivages en permanence entre le mal et le bien, ce qui peut-être pas forcément désagréable pour la vie publique.
Voilà, donc vous, votre Napoléon, c'est plutôt une personnalité, une figure avec laquelle vous entretenez de bonnes relations, on peut dire ?
disons, d'assez bonnes relations par rapport à mon pays d'origine. Et puis, en tant que juriste, ça c'est un défaut dont je ne me remettrai jamais.
Mais on en parlera de ça.
Mais c'est comme ça. Il a quand même contribué à la modernisation du droit et des institutions, dans lesquelles d'ailleurs il n'a pas inventé autant qu'on a dit, parce que le travail de droit privé avait été fait par les juristes d'Ancien Régime autour de la coutume de Paris, et le travail de droit public avait été largement préparé par la monarchie. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a rationalisé, systématisé, mis sa touche, et sur de nombreux points, ça a eu des effets plutôt positifs. Voilà.
Alors, on va maintenant passer la parole à Annie Thomas, qui sera peut-être plus critique.
Disons que j'ai un sentiment très curieux, c'est-à-dire que j'ai l'impression que je redécouvre en fait Napoléon. D'abord autour de toutes ces polémiques qu'on vit aujourd'hui autour de cette commémoration, mais aussi par rapport à une expérience très particulière, une expérience de travail, puisque j'ai travaillé à l'ambassade de France en Espagne pendant 6 ans, et que quand on travaille à l'ambassade de France en Espagne, par rapport à Napoléon, on passe de l'autre côté du miroir. C'est-à-dire, je suis partie bardée de mes certitudes académiques, de l'enseignement que j'ai reçu au lycée, un petit peu à l'université, où ce personnage était bien sûr évoqué, le mythe de Napoléon, tout ce que je pouvais savoir. Mais quand je suis arrivée en Espagne, eh bien, j'ai été confrontée à différents événements qui étaient liés à l'invasion de l'Espagne par les troupes napoléoniennes, à l'abdication forcée du roi d'Espagne et le remplacement de ce même roi par le frère de l'empereur, Joseph, et une rébellion, malgré tout, très importante du peuple madrilène qui s'est révolté contre cela, qui a donné lieu aux deux magnifiques tableaux de Goya, tout le monde les connaît, le 12 de mayo et le 13 de mayo, avec cet insurgé qui est fusillé par les troupes françaises, hein, les bras levés, avec sa chemise blanche et son pantalon jaune, c'est une figure iconique. Mais ce n'est pas qu'une figure d'un peintre engagé, c'est véritablement une histoire que vivent les Madrilènes. Je me souviens parfaitement que sur la façade de l'hôtel de ville, il fallait changer la plaque qui commémore justement l'attaque des troupes napoléoniennes et la répression. Et la nouvelle version devait comporter le mot « los franceses », alors que précédemment, il y avait un mot qui évoquait « les troupes napoléoniennes ont envahi l'Espagne ». Et je peux vous dire que l'ambassadeur de France s'est vraiment démené pour que sur ce panneau qui est sur l'hôtel de ville, ce ne soit pas los français, c'est ce qui soit les Français qui soient faits. Donc on voit bien quand même que la figure de Napoléon en Espagne perturbe quand même le Quai d'Orsay. Deuxième souvenir, c'est être allé à Cadiz, dans l'église où a été promulguée la Constitution espagnole en 1812. Alors que les troupes napoléoniennes sont là, dont les Cortes, qui ne pouvaient plus se réunir à Madrid, faisaient le tour de l'Espagne, ont fini par aboutir à Cadix, et ont donné lieu à la première constitution espagnole. Et donc, la ville est attaquée autour par les troupes napoléoniennes. Et là, c'est le paradoxe, c'est que cette constitution, elle respecte justement l'enseignement de la Révolution française, la souveraineté nationale, l'égalité, tous les grands principes que nous avions dans la Révolution française étaient reprises par les insurgés alors que les Français autour étaient en train de les attaquer. Donc ce sont des images très fortes. Je vous passe Montserrat, l'abbaye de Montserrat, l'abbaye bénédictine en Catalogne, qui est le lieu central de la religion catholique en Catalogne, qui a été détruite et incendiée totalement par les troupes napoléoniennes. Donc, lorsque vous parlez de Napoléon en Espagne, ce n'est pas du tout la même chose qu'en France. Voilà, ça, c'est mon souvenir.
Encore aujourd'hui. Alors, Philippe Faureau, monsieur l'historien, votre Napoléon.
J'entretiens avec Napoléon, j'espère, un lien d'historien. C'est-à-dire que je n'ai aucune dévotion pour l'empereur. Je dirais, c'est un personnage qui m'intéresse, qui effectivement a marqué son époque. Et d'ailleurs, il faudra s'interroger même sur les Napoléons qu'il y a eu, parce que c'est pas un personnage totalement monolithique. Le premier souvenir peut-être que j'ai, c'était au collège. J'ai fait mes études chez les jésuites. Et finalement, sans le savoir, j'ai fait une disputatio sur Napoléon. Parce que le professeur m'avait demandé... Tu vas faire pour la semaine prochaine une défense du bilan de Napoléon. Et un de tes camarades, lui, va être le procureur. C'est-à-dire qu'il va attaquer le bilan de Napoléon. Sans le savoir, j'ai fait une disputatio chez les jésuites. Donc, c'est la tradition jésuite. Mais effectivement, pour Napoléon, il va falloir peut-être bien voir qu'il y a le bilan et l'héritage intérieur. Ces masses de granit dont il a lui-même parlé. Et effectivement, c'est là où Mme Cabanis, avec la culture juridique, peut dire tout de même qu'il y a un héritage napoléonien dans les institutions, dans le droit, etc. Après, il y a le plan international qu'a évoqué effectivement Annie. C'est-à-dire que les guerres, la question de la politique étrangère, il faudra peut-être un peu affiner, parce que Napoléon est irresponsable de tout. C'est évidemment beaucoup plus compliqué. Donc il y a le plan international. Et puis il y a un troisième plan qui, je dirais, a joué beaucoup sur les Français pendant très longtemps, sans doute au moins aujourd'hui, c'est la légende. C'est la formidable légende qui naît, je dirais, assez vite, dès Sainte-Hélène. D'ailleurs, quand on dicte le mémorial, après tout, oui. on veut se mettre dans le détail que l'on va donner pour l'avenir. Et l'ombre portée de Napoléon est gigantesque sur tout le XIXe siècle. Et si vous me permettez juste un instant...
Et même au-delà.
Et même au-delà. Chateaubriand, dans les Mémoires d'Outre-Tombe, écrit quelque chose justement sur l'ombre portée de Napoléon. Voici ces quelques lignes. Bonaparte n'est plus le vrai Bonaparte. C'est une figure légendaire, composée des lubies du poète, des devis du soldat et des contes du peuple. C'est le Charlemagne et l'Alexandre des épopées du Moyen-Âge que nous voyons aujourd'hui. Ce héros fantastique restera le personnage réel. Les autres portraits disparaîtront. Bonaparte appartenait si fort à la domination absolue qu'après avoir subi le despotisme de sa personne, il nous faut subir le despotisme de sa mémoire. Ce dernier despotisme est plus dominateur que le premier, car si l'on combattit quelquefois Napoléon alors qu'il était sur le trône, il y a consentement universel à accepter les fers que mort il nous jette.
Oui, mais c'est Chateaubriand en plus.
Oui, c'est Chateaubriand.
Et voilà. Magnifique, évidemment, pour les Mémoires d'Outre-Tombe. Livre qu'on peut conseiller à tout le monde, toute génération confondue. Mais quand j'étais lycéen, on me disait, il faut lire Chateaubriand si tu veux savoir écrire, ne serait-ce que pour ça. Alors, la commémoration tout de même. Donc, Emmanuel Macron, demain, va prononcer un discours à l'Institut de France. On ne sait pas ce qu'il va dire. Hein. Attention, hein. Il y aura sans doute des nuances. Il va déposer une gerbe sur le tombeau de Napoléon aux Invalides. Il y en a qui s'en offusquent, il y en a qui disent qu'au contraire, on n'en fait pas assez. Qu'est-ce que vous en pensez? Il fallait commémorer tout de même. On ne pouvait pas faire comme si cette date était anodine, le 5 mai 2021, le bicentenaire de la mort de Napoléon. Il fallait commémorer ou pas? Et Annie Thomas, par exemple.
Écoutez, une commémoration, ça n'est pas...
Ce n'est pas une célébration.
Voilà, une célébration, un hommage permanent, un pinacle. Une commémoration, normalement, se doit de relever ce qui est notable dans la carrière ou l'événement, mais aussi de l'analyser avec un regard d'historien. Et moi, c'est ce que je souhaite. Moi, je ne suis pas... pour ce qu'on appelle la cancel culture, c'est-à-dire éliminer ce qui vous gêne, mais surtout analyser ce qui s'est passé dans le passé avec nos prismes d'aujourd'hui.
Je pense surtout que ça, la lumière c'est... de la morale, à l'aune de la morale d'aujourd'hui.
Oui, mais je crois que c'est une erreur. C'est une erreur.
C'est contraire à ce qu'on enseigne aux historiens, en tout cas.
Oui, mais par contre, avoir un regard qui est un regard d'historien ou de penseur sur la totalité de l'œuvre, parce que ce que nous a dit Philippe à l'instant, effectivement, sur cette mémoire qui va rester, même cette mémoire, elle est contestée aujourd'hui, parce que, la mémoire est en mouvement. La mémoire peut être blessée et les blessures d'aujourd'hui ramènent un petit peu à ce qui s'est passé dans le passé. On évoquera sûrement le rétablissement de l'esclavage. Il est tout à fait normal que cette question fasse souffrir. Donc cette mémoire souffrante d'aujourd'hui, elle fait référence à celle qui a été dans le passé réanimée par Napoléon. Ce que je voulais aussi rajouter, c'est que il nous faut savoir que malgré ce que dit Chateaubriand, rappelons-nous quand même que c'était un personnage controversé, même de son vivant. C'est un personnage clivant des voilà, les révolutionnaires qui s'estimaient purs et durs, et même ceux du 19e siècle, hein, estimaient qu'il avait assassiné la Révolution française.
Alors oui, il est présenté comme l'héritier de la Révolution.
Oui,
et puis,
or, pour certains, non, il a tué la Révolution française. Ah, oui, oui. Hein. Donc il y a des débats sur cette
question. Certains pensent que c'est bien. Il y en a qui pensent que c'est bien.
Oui, certains pensent que c'est bien. Rappelons-nous la souffrance des campagnes. Il y a eu 800 000 morts quand même, donc il y avait un rejet de certaines classes de ce qui se passait. Rappelons-nous de ce qui s'est passé à Toulouse. À Toulouse, dernière bataille un petit peu avec Wellington. Wellington bat les troupes
anglo-espano-portugaises.
Oui, mais les troupes bat les troupes napoléoniennes. On a un monument qui le commémore. Et Wellington, il bat tout le monde et il est accueilli avec un tapis rouge à Toulouse, hein. C'est ce qui s'est passé, hein, soyons clairs. Donc voilà, donc il faut aussi qu'on soit capable de se dire ça. Mais ce que j'admire dans la personne, peut-être au fond, c'est qu'il a cassé tous les déterminismes sociaux. Voilà, donc on n'a pas encore évoqué cet aspect-là. C'est un Corse d'une petite famille.
C'était un immigré de fraîche date, finalement.
Un immigré de fraîche date qui n'avait pas tout le capital social et humain qu'on peut penser devoir avoir et qui est allé très haut et très loin, peut-être. Trop haut et trop loin, je dirais. Et par contre, ce que je n'aime pas, j'ai évoqué tout à l'heure la figure de Joseph, son frère, c'est cette volonté d'essaimer, de créer une dynastie, de créer... c'est du népotisme pour moi.
Il s'en est mordu les doigts d'avoir mis son frère sur le trône en Espagne.
Oui,
quand même.
Je pense que c'était une erreur, et ailleurs aussi. Oui, et si vous voulez, l'héritage de la Révolution, qui était l'expression du peuple, la démocratie par le peuple, là, c'était complètement cassé. Voilà, donc c'est un personnage avec des ombres et des lumières, mais je pense qu'effectivement, on peut le commémorer.
Alors, Daniel Cabanis, vous, comme Philippe Faureau, vous n'êtes pas historien, mais vous avez quand même enseigné. Il faut commémorer pour transmettre aussi.
Alors, je crois qu'on ne peut pas fragmenter notre histoire au sujet de n'importe quel personnage en faisant comme s'il n'avait pas existé, parce qu'on l'exècre. De même qu'on ne peut pas mettre en valeur que certaines périodes de notre histoire, parce que tel ou tel personnage nous paraîtrait admirable. Parce que, comme vous l'avez dit très justement tout à l'heure, l'approche mémorielle change, parce que les critères d'évaluation ne sont pas les mêmes au fil du temps. Donc personne ne peut être absolument sûr de détenir la vérité, d'avoir fait la bonne analyse de manière totalement objective. Alors je crois que dans une commémoration, lorsqu'elle est réussie, elle devient rassembleuse, non pas dans une espèce de syncrétisme stupide, parce que ça débouche sur rien du tout, mais sur le fait qu'on se met d'accord pour considérer qu'un moment de T de notre histoire a été marqué par une personnalité, pour le meilleur et pour le pire, mais qu'on veut essayer de se le rappeler sans pour autant ressasser des rognes anciennes dont certaines, je crois, sont totalement dépassées. Je prends un exemple, puisque nous sommes deux et deux, deux dames et deux messieurs. Hein, les femmes n'avons pas en général un regard très très favorable sur une partie non négligeable de son œuvre législative, puisque la femme n'avait pas d'existence juridique, elle était une éternelle mineure. On revenait pourtant de loin, on avait tout juste conquis une âme au sein de l'Église catholique, mais on n'était quand même pas une personne. Et ce n'est pas que le fait de ne pas avoir juridiquement un statut de personne autonome, mais c'est d'être traité en permanence comme un être inférieur. Je pense aux innombrables gravures de constats d'adultère. Si c'était pas si affreux, on rirait. La dame charmante est toujours fort dénudée. L'amant représente ce qu'à l'époque on trouvait très beau, c'est-à-dire un moustachu. Comme ça, une chemise juste un peu dégrafée, et derrière, on voit le mari, le triste sire, on comprend qu'elle soit partie. Il fait une tronche pas possible, et le notaire ou l'agent de police qui vient faire le constat. Donc tout est fait pour que la femme soit ridicule, et comme on a les interventions de Napoléon au Conseil d'État, on les a complètement, au moment de la rédaction du Code civil, il est vrai qu'il les aimait bien, mais qu'il en avait une vision qui était plein de mépris et de rejet. Bon, il avait eu quelques expériences qui l'avaient peut-être marqué. Hein, Joséphine lui a appris les bonnes manières parce qu'elle, elle les avait, mais elle l'a beaucoup trompé quand il était encore très amoureux.
On va en parler de Joséphine tout à l'heure, voilà. Notamment quand on va parler du rétablissement de l'esclavage, parce qu'elle est sans doute pas tout à fait neutre dans cette affaire. Alors, Philippe Faureau, il fallait commémorer. Je pense que l'historien sera d'accord. On devait commémorer le bicentenaire de la mort de Napoléon, sachant qu'il y a 16 ans, on n'a pas voulu célébrer le bicentenaire de la victoire d'Austerlitz.
Oui. Alors, un mot sur Austerlitz, parce qu'on aurait dû alors commémorer Iéna, on aurait dû commémorer Wagram.
Oui, mais Austerlitz, enfin, évidemment, c'est emblématique.
C'est peut-être une victoire exceptionnelle. Mais commémorer le bicentenaire, oui, c'est l'occasion de faire le point, de s'intéresser à cette période, en la replaçant dans un contexte mental qui n'est pas le nôtre. Car Napoléon, de ce point de vue-là, est aussi l'héritier d'une période. Je ne suis pas sûr qu'il était le seul à avoir un mépris pour les femmes. Je pense que c'était une idée assez partagée dans la société de l'époque. Et d'ailleurs, est-ce que la Révolution a elle-même beaucoup fait pour les femmes? Peut-être qu'il faudrait...
La bonne Olympe l'a payé fort
voilà.
Cher. Et d'autres.
Et donc, c'est un produit d'une période. Mais le
ça, l'égalité homme-femme au moment de la Révolution, en ce qui concerne la guillotine, elle est parfaite.
Oui, c'est un aspect. Mais par contre, commémorer oui, parce que c'est l'occasion de faire le point, et je dirais même pour les historiens, comme il y a 6 ans, la mort Louis XIV. Il y a eu des publications pour le tricentenaire de la mort du roi, qui ont été extrêmement intéressants. De même, par exemple, quand il y avait eu l'Édit de Nantes. L'Édit de Nantes, en 1998, avait donné l'occasion de faire des colloques, des publications.
C'est très intéressant.
Donc, effectivement, et de même que la révocation de l'Édit de Nantes en 1985. Donc, oui, ce sont des dates qui nous permettent de nous repérer. Donc oui, commémorons. Ensuite, sur Napoléon lui-même, je pense que ce que j'essayais de dire tout à l'heure, le Bonaparte de 1802 n'est pas Napoléon de 1809 et n'est pas celui de 1815. C'est-à-dire que 1802, replaçons-nous un instant dans le moment de ce début de siècle. La France sort de 10 ans de guerre, car la guerre est un héritage de la Révolution. Elle éclate en 1792.
Absolument, oui.
Et Napoléon signe le traité d'Amiens en 1802, c'est la paix en Europe.
Remet de l'ordre. Vous diriez qu'il remet de l'ordre à ce moment-là?
Oui, c'est-à-dire que
le
directoire, là aussi, le directoire a laissé une mauvaise impression. Oui. Alors certains historiens essayent de réhabiliter un peu le directoire, mais tout de même, pour la société française, elle est fatiguée. Donc, la paix religieuse, le concordat est vécu comme une paix religieuse. Donc en 1802, l'homme est au zénith d'une popularité. 1809, c'est un autre homme. Il domine l'Europe. Il vient de rentrer à Vienne pour la deuxième fois, après Wagram. Il dicte au roi et aux empereurs la volonté de la France. Donc là, c'est l'homme impérial. Et puis 1814-15, Annie y a fait allusion tout à l'heure, c'est l'impopularité. Parce que l'élevé en masse, la guerre pèse de plus en plus. Et je voudrais juste donner un chiffre pour que nos auditeurs se rendent compte de cette situation en 1814. En janvier 1814, dans le Tarn, comme dans tous les départements, levé en masse, le préfet envoie des convocations pour 1 millier de jeunes Tarnais qui viennent à Albi pour s'enrôler dans l'armée, parce que les alliés viennent de traverser le Rhin. Et 63 se présentent. Où sont les autres? Mais ils sont cachés dans toutes les campagnes du Tarn. Et la conscription a rendu Napoléon totalement impopulaire. Donc, vous voyez, il faut faire attention à ça aussi.
Alors, ça va me donner l'occasion, là, puisque vous en parlez, de vous poser la question. Selon vous, quelles sont les actions, les décisions et les réalisations que l'on peut porter au crédit de Napoléon, et à contrario, quelles ont été ses actions, ses décisions, ses réalisations qui ont été néfastes pour la France, et même au-delà, on peut le dire, peut-être pour l'Europe. Annie Thomas.
Alors, je pense que ça impose aujourd'hui, puisque nos mémoires sont en mouvement, et que, justement, il faut l'admettre aussi, hein, que la question du rétablissement de l'esclavage est une question centrale, et que si nous étions en ce moment à la Guadeloupe ou à la Martinique, bien évidemment, nous n'aurions pas tout à fait non plus cette conversation aussi tranquille. Hein. Et donc, ce rétablissement de l'esclavage après que la Révolution française l'ait aboli.
En 1794.
Donc, puisque la Révolution française a, malgré tout aussi, sur cette question-là, tapé fort après une révolte à Saint-Domingue, hein, des esclaves. Et ce rétablissement ensuite par Napoléon, quelques années après, alors qu'il devient premier consul.
Donc c'est mai 1802, hein, le rétablissement du Code Noir.
Hein, 1802. comment dire, est encore perçue aujourd'hui comme une erreur monumentale. Et surtout, elle a entraîné d'énormes souffrances. Les troupes ont été envoyées, en particulier en Guadeloupe, pour mater la rébellion, à Saint-Domingue aussi. Mais à Saint-Domingue, ils ont gagné, ils ont battu les troupes napoléoniennes et ils ont décrété leur indépendance. Ça a eu une conséquence géostratégique. Et rappelons-nous que la suppression de l'esclavage en France a dû attendre 1848,
oui,
dont elle a été rétablie en 1802. Il a fallu attendre plus de 40 ans pour que l'esclavage soit aboli.
Alors, est-ce que l'abrogation de 1794 était effective partout aux Antilles ?
Elle n'était pas effective en Guadeloupe.
Elle n'était pas à Saint-Domingue.
En Guadeloupe, elle n'était pas effective parce que la Guadeloupe était occupée par les Anglais.
Voilà.
Et donc, il y avait effectivement cet aspect-là. Mais bon, ça, voilà. Elle était effective. Là où la présence de la France était là, elle a eu des conséquences quand même extrêmement graves, hein, pour les personnes concernées. L'autre point, vous l'avez évoqué, qui me pose problème, c'est malgré tout la situation des femmes, au-delà des clichés. Et le code civil et le code pénal contiennent des articles qui sont en retrait par rapport à la Révolution française, au droit issu de la Révolution française, mais aussi de la fin de l'Ancien Régime.
Tout à fait.
Parce qu'il y avait un certain nombre de points qui, pour les femmes, en termes de liberté, d'acter en particulier, avaient été admises, dont là, les femmes sont considérées comme des mineures. Eh bien, j'ai retenu un certain nombre de dates sur le fait que quand est-ce que les femmes ont pu retrouver ces droits après le code civil, le code pénal. Disposer des salaires pour les femmes, c'est inscrit, hein, Napoléon l'a fait inscrire ça dans le code civil. Les femmes ne peuvent pas disposer de leur salaire. Il a fallu attendre 1907 pour que ce soit le cas. Que les femmes aient la capacité civile, c'est-à-dire acter, décider d'elles-mêmes. Il a fallu attendre 1938 pour que ce soit le cas. Ouvrir un compte bancaire. Alors, Napoléon n'était pas allé jusque-là, soyons clairs. Mais ouvrir un compte bancaire, il a fallu attendre 1965. Donc, c'était vraiment très, très grave. Et sur le code pénal, il y avait un article qui est l'article 324 du code pénal, qui était surnommé l'article rouge, parce que lorsqu'il y avait un meurtre sur une femme adultère, eh bien la faute de l'homme était excusable, parce qu'il y avait ça. Donc nous allons au-delà, hein, vous avez raison, Daniel, de souligner que tout ce que nous avions autour de nous à cette époque-là, c'était des peintures, des dessins qui montraient tout ça. Mais en fait, au final, il pouvait tuer sa femme et il était excusé au tribunal. Donc, c'est grave. Enfin, pour moi, c'est très important.
Cela dit, il y a eu beaucoup de régimes entre 1815 et les dates que vous avez citées qui auraient pu remettre ça en question.
Certes. Vous avez raison de dire, Eric, que cette société était misogyne.
Apparemment, ils s'en sont bien accommodés.
La société 19e était très misogyne, hein, soyons clairs, jusqu'au début du 20e siècle. On a vu, hein, les luttes des suffragettes, les luttes des mouvements de femmes, de MLF, enfin, j'en passe, c'est des meilleurs. Hein. Oui, c'est une lutte. Mais on peut remonter quand même, puisque la Révolution française, sur certains points, avait donné la capacité civile aux femmes. Et là, Napoléon l'a leur retiré.
Alors là, vous avez mis en évidence, si je peux dire, que des aspects négatifs. Alors, du bilan. Qu'il y a quand même quelques points qu'on peut porter
raison,
à son crédit?
Oui. Eh bien, écoutez, je vais peut-être vous surprendre, mais pour moi, la chose la plus intéressante, peut-être, c'est le cadastre.
Oui.
Voilà. C'est en fait une forme de modernisation de la France, du pays, parce que quand on n'a pas de cadastre, on a des conflits permanents, on a une impossibilité aussi de faire des aménagements publics, des routes, enfin toute une série de choses de ce type-là. Et cette organisation-là, pour moi, elle est extrêmement moderne et extrêmement importante. Alors après, bien sûr, on peut citer la Banque de France,
oui,
parce qu'elle a introduit une stabilité de la monnaie que les monnaies d'Ancien Régime n'avaient pas toujours. Hein. Si le roi décidait de battre monnaie, n'est-ce pas, pour faire campagne, eh bien, on avait une inflation. Le XVIIIe siècle a été pourri, hein, de scandales financiers, de manipulation de la monnaie par les pouvoirs royaux. Donc, c'est vrai que pour moi, le cadastre et la Banque de France, ça me semble le plus essentiel. Je ne dis rien des lycées, parce que comme les filles n'y étaient pas admises, ça m'intéresse
donc voilà,
pas.
Voilà, ça marche qu'à moitié.
Ça m'intéresse
on
pas.
On ne peut pas le porter complètement au crédit. Alors, Daniel Cabanis, les grands faits, les hauts faits napoléoniens, et puis les erreurs les plus néfastes qu'il a pu faire.
Bon, la gloire militaire, c'est pas trop mon truc, donc je ne vais...
Bon, on va laisser ça à la Fondation Napoléon.
Je ne vais pas vanter des victoires, bon, dont je pense finalement pas grand-chose. Non, dans les hauts faits, je crois quand même qu'il a essayé de faire une synthèse entre ce que l'Ancien Régime et la Révolution avaient en commun en matière institutionnelle, c'est-à-dire l'Ancien Régime avait échoué pour 36 000 raisons sur lesquelles il n'y a pas lieu de revenir maintenant, mais l'idée, elle y était quand même, c'est que pour gérer correctement un État, il fallait des structures transparente et simple, un droit compréhensible à chacun. Alors, bien sûr que lorsqu'il disait « n'importe quel bon Français doit comprendre le code civil », c'est un vœu pieux. Mais aujourd'hui, même un juriste éminentissime, souvent, doit s'y prendre à quatre fois pour comprendre un texte de loi ou une modification de tel ou tel code, tellement c'est alambiqué et compliqué. Donc cette volonté de rendre les institutions, par le biais des codes, mais aussi de la structure administrative et politique du pays, accessible et compréhensible, je pense que c'est un progrès. Alors, vous avez dit avec raison qu'il ne laissait pas grande place à l'opposition, la presse était muselée, les opposants étaient fichés par Fouché, pour faire un jeu de mots facile. Peut-être pas autant qu'il l'aurait aimé, parce qu'on sait qu'il résistait. Parfois, on est plus malin quand on est dans l'opposition que les gens qui sont au pouvoir, et c'est très bien
en
ainsi.
En général, oui.
J'insiste, c'est très bien ainsi. Mais il ne reste pas moins que ça a été le socle de progrès qu'il n'a pas réalisé, mais qui ont été possibles ensuite. Vous avez raison, les lycées au féminin, ça nous fait brère parce qu'on n'y était pas. Mais il ne reste pas moins que l'effort qu'il a fait en faveur de la formation pour qu'on puisse ensuite avoir des fonctionnaires de qualité avec le développement de Polytechnique qu'il n'a pas créé, mais qu'il a poursuivi, c'est Carnot qui est derrière, mais enfin, qu'il a quand même favorisé et développé, je pense que c'est bien parce que c'est l'idée que cette fois-ci, on va faire en sorte. Bon, ça n'a pas toujours marché, ça continue à ne pas toujours marcher. Mais on va faire en sorte d'avoir des gens compétents pour prendre des décisions qui ont un impact sur l'ensemble de la société et que ces gens compétents seront choisis en fonction de leur qualité réelle et non pas parce qu'ils s'appellent monsieur de la tour qui penche du côté où elle va tomber. Donc ça, je pense que c'est objectivement un progrès bien réel, même si dans la réalité de la société, il y a beaucoup à redire, notamment...
Même aujourd'hui, hein.
Aujourd'hui. Absolument. Non, mais je me concentre sur Napoléon, sinon il y aurait trop à dire. Je pense qu'il a posé des jalons d'une évolution qui a été positive ensuite. C'est là-dessus qu'a pu se greffer l'idée de l'école pour tous.
Jules Ferry, les avancées de Jules Ferry.
Les avancées de Jules Ferry, c'est, il a préparé le terrain. Oui. Comme on peut détester Louis-Philippe, qui n'est pas quelqu'un de séduisant de quelque manière que ce soit, mais le travail fait par Guizot a aussi été une étape positive. Donc ça, je pense que ce sont des éléments qu'on doit je crois qu'on peut porter à son crédit.
Et à son débit, alors, parce que vous maîtriez.
Si j'en ai. Non, c'est un peu le corollaire. Hein, c'est l'absence des libertés, la liberté d'expression qui est bafouée, les opposants qui sont pourchassés. Et puis, au fil des années, cette espèce d'enflure vaniteuse qui fait qu'il ne se rend plus compte des conséquences de ce qu'il fait. Au début, il a pu se payer, tout le monde se trompe, mais il avait une perception assez juste de ce qu'il voulait et que s'il y arrivait, quelles en seraient les conséquences, avec lesquelles on est d'accord ou non, mais il maîtrisait. Tandis qu'à partir de 1808, en fait, à partir de la guerre d'Espagne, il maîtrise plus, il ne se rend plus véritablement compte de ce qui résulte, de ce qu'il décide et de ce qu'il fait. Et un des paradoxes, c'est que vous l'avez dit, en Espagne, il reste quand même une réaction très, très vive, il suffit de gratter un peu pour que ça démarre au quart de tour contre les Français. En revanche, en Russie, il reste une espèce de fascination qui est incroyable, je viens de lire un énorme article là-dessus, pour Napoléon, et même les bolchos considéraient qu'après tout, il avait apporté en Russie les idéaux de la Révolution et fait évoluer la société positivement. Il est vrai qu'Alexandre, éduqué par le tsar, oui, c'était pas mon petit pote, mais éduqué par mon compatriote Frédéric César de Larpe, avait été ouvert, non pas à un libéralisme forcené, mais quand même à un certain nombre de progrès. Et au départ, il pensait que Napoléon faisait du bien en Europe, contre ceux qu'il considérait comme des horribles réacs, hein, les absous, ce qu'ils étaient assez largement.
Aussi.
Donc voilà.
Alors, Philippe Faureau, vous, qu'est-ce que Napoléon a fait de bien? Qu'est-ce qu'il a fait de moins bien? Qu'est-ce qu'il a fait de beaucoup moins bien?
Je pense qu'il avait un sens de l'État. Mmh. Or, les Français sont sensibles à ce sens de l'État. C'est-à-dire que, là encore, revenons aux héritages. Finalement, il hérite d'une France en guerre, d'une France qui a connu le désordre, et où même les idéaux de la Révolution posés n'ont pas été respectés par une bonne partie des révolutionnaires eux-mêmes. Mmh. Le Directoire, par exemple, va casser des élections qui ont été favorables en 1797 aux royalistes. Bon. Mmh. Donc,
oui, rappelons aussi ce qui s'est passé en Vendée tout de même.
Il est riche d'une situation effectivement difficile. Bon. Et je crois qu'il a un sens de l'État, lui et d'autres, comme Portalis aussi, qui est un personnage intéressant. Et donc, par exemple, le préfet. Le préfet qui, dans chaque département, va représenter le gouvernement. Alors, effectivement, on peut le regarder de deux manières, le préfet. C'est l'œil du pouvoir. Mmh. C'est celui qui contrôle les éventuelles oppositions, etc. C'est lui qui, à partir de 1810, donne les autorisations pour la presse. Bon. Mais en même temps, je remarque que tout ce qui a été évoqué par Daniel et Annie n'ont pas été remis en cause par les régimes successifs.
Oui.
C'est-à-dire que la chute de Napoléon ne provoque pas le raz-de-marée pour détruire tout ce qui a été fait sur le plan institutionnel. Le préfet, Louis XVIII, comprend très bien que c'est très intéressant d'avoir des préfets dans chaque préfecture. Bon. De même, sur le plan religieux. Sur le plan religieux, un des grands problèmes que la Révolution a eu géré, c'est la relation au catholicisme. Bon. Et François Furet, je me souviens, disait il y a maintenant longtemps que un des échecs de la Révolution a peut-être été la difficulté de gérer la question religieuse. Napoléon, qui à titre personnel n'est pas très religieux, mais il comprend l'utilité sociale du catholicisme. Et donc le concordat met la paix religieuse. Et alors évidemment, quand on lit en détail le concordat, on s'aperçoit que l'évêque est un préfet violé, effectivement. C'est-à-dire que, imaginez, l'archevêque de Toulouse va devant monsieur le préfet pour prêter serment au régime quand même. Donc voilà, l'Église est tenue. Les nominations sont finalement sous les yeux de l'empereur et des régimes successifs. Mais il assure une paix religieuse, ce qui, pendant quelques années, lui vaut une réelle popularité auprès du petit peuple catholique. Par contre, effectivement, à partir du moment où, pour des raisons diverses et variées, il fait arrêter le pape Pie VII, qu'il le fait amener à Savone puis à Fontainebleau, ça pose des problèmes, effectivement. Quand il veut créer une espèce de concile national en 1811 qui échoue, ça peut poser des problèmes. Mais il a réfléchi à la question religieuse. Et puis, il va organiser aussi une liberté et une structure pour les protestants et les juifs.
Oui.
C'est-à-dire qu'il structure la relation de l'État.
Ça me paraît très important,
oui, ça,
quand il rétablit le grand Sanhédrin, le consistoire
protestant.
Oui,
parce
oui,
qu'il facilite quand même l'assimilation
absolument,
des juifs.
Absolument,
et ça,
en fait,
il, là, il est dans les pas de la Révolution française.
Oui,
vraiment,
oui,
vraiment,
oui,
il est vraiment l'héritier de la Révolution.
C'est-à-dire que là, il donne aux religions présentes sur le territoire national. Parce que le concordat ne fait pas du catholicisme la religion d'État.
Absolument.
C'est la religion de la majorité des Français.
Oui.
Ce qui, objectivement,
c'est... l'époque était
culturellement, ce n'est pas discutable.
Mais par contre, organiser le culte juif, organiser le culte protestant, il a une... quand il s'adresse devant le Conseil d'État en 1801 au moment du concordat, il disait « Mais si j'étais mahométan, j'organiserais la religion musulmane.
Oui, »
bon.
Oui.
Et c'est intéressant. Oui. « Et si j'étais à Jérusalem, je referais le temple. » Bon, oui. Enfin bref. Et donc, sur le plan religieux, il sent que l'État doit jouer un rôle. Alors, sur les questions internationales quand même, parce que là aussi, Napoléon, c'est la guerre, c'est la politique étrangère. Je crois qu'il a des responsabilités. Est-ce qu'il les a toutes?
Et je crois
j'allais
que m'apposer
pardon,
la question. Mais bon, on est dedans, là, clairement. Les guerres napoléoniennes, évidemment, c'est ce que les critiques de Napoléon, c'est surtout ça. Il a mis l'Europe à feu et à sang. Voilà, oui. Ce qu'on nous dit. Et évidemment, on en a payé les conséquences longtemps. voire jusqu'à la moitié du XXe siècle presque. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il n'avait pas aussi, est-ce qu'on ne lui a pas un peu forcé la main, les Anglais en tout cas, qui avaient des visées hégémoniques commerciales sur l'ensemble de l'Europe, est-ce que ça ne l'a pas obligé, pour certaines batailles, à mener la guerre en diverses zones de l'Europe?
Alors je vais essayer d'être assez rapide sur cette question. D'abord, là encore, partons de 1799-1800. Le pays est en guerre depuis 1792. Donc la guerre le précède. En 1801, il réussit la paix de Lunéville avec les Autrichiens et l'année suivante, la paix d'Amiens avec l'Angleterre. Ce qui fait que là, il y a, pour depuis 10 ans, la première fois, une Europe en paix. Ensuite, est-ce que la rupture qui arrive en 1803 n'est que de la faute de Bonaparte à l'époque? En fait, elle est partagée. Je prends un seul exemple. Le traité d'Amiens prévoyait que les Français évacuaient les ports du royaume de Naples. Et inversement, les Anglais devaient évacuer Malte. Le problème, c'est que c'est à toi de commencer. Ah non, c'est pas à moi. Toi, tu vas évacuer Malte. Après, moi, j'évacue...
Vous voulez dire que c'est un peu des discussions de cours de récréation.
Exactement. C'est-à-dire que les Anglais sont méfiants, les Français sont méfiants. Personne ne fait d'effort particulier. Résultat, la guerre reprend en 1803. Ensuite, ce qui se passe, c'est que, me semble-t-il, bien sûr que Napoléon rêve d'une Europe française, mais la Grande-Bretagne alimente financièrement la guerre. On sait très bien, par exemple, que après Tilsit, les Anglais donnent des subsides au tsar pour que il attaque, par exemple, le Grand-Duché de Varsovie, pour qu'il résiste éventuellement à Napoléon. Donc, il y a véritablement un vrai problème qui se pose. Et puis, un dernier mot pour ne pas trop monopoliser, la question du blocus continental. C'est là où, à mon avis, il y a un engrenage qui se met en place. Parce que quand il rentre à Berlin après Iéna, et donc nous sommes en novembre 1806, il est quasiment le maître d'Europe. Bon, il faut qu'il fasse la paix avec Alexandre, le tsar de Russie, mais il est quand même le maître d'Europe. Et il décrète le blocus. Et le blocus, c'est à la fois intelligent, essayer d'étrangler économiquement l'Angleterre. Sauf que l'Angleterre peut commercer avec les jeunes États-Unis ou l'Asie, mais c'est vrai que l'Europe se ferme à elle. Mais pour que le blocus soit efficace, il faut contrôler les côtes françaises, mais les côtes belges et néerlandaises, les côtes italiennes, le Portugal et par là même l'Espagne. C'est-à-dire que là, il y a sans doute un engrenage que le blocus va déclencher. Mais la responsabilité seule à Napoléon... Non. D'abord, il hérite d'une guerre qui a commencé en 1792, et puis le rôle de la Grande-Bretagne, de la Russie, de l'Autriche, est aussi à prendre en compte.
Alors, juste, Daniel Cabanis.
Ça va tout à fait dans votre sens, mais on parle toujours de notre ennemi héréditaire, l'Allemagne, c'est pas vrai du tout. L'ennemi héréditaire de la France, depuis l'affaire d'Aliénor d'Aquitaine et la vraie guerre de 100 ans identifiée comme telle, ce sont les Anglais qui, à chaque fois qu'ils le pouvaient, ont fait des alliances contre nous, avec plus ou moins de succès. Et Napoléon a en fait voulu casser cette logique-là. Alors, je crois que vous avez raison, il a été entraîné finalement par ses décisions, mais il y a quelque chose qui s'est imposé à lui, la position anglaise, il faut casser les Français.
Annie Thomas.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui vient d'être dit, mais simplement ce qui lui a manqué peut-être, c'est une politique d'alliance. C'est-à-dire que on ne peut pas se battre seul contre le monde, parce que c'était le monde à cette époque-là, hein, l'Europe. Et donc, il est rentré dans des villes, il a mis des hommes liges ou des femmes liges à la tête de ses États, mais il n'a pas fait d'alliance, il n'y a pas de politique d'alliance. Et je pense que ça, c'est sa faiblesse. Et de la même manière, autant...
Parce qu'il n'a pas voulu ou parce qu'il n'a pas trouvé les bons partenaires?
Oh non, je pense que si vous cherchez, vous trouvez les bons partenaires, à mon avis, non. Il avait cette politique et bon, on conquiert, on met quelqu'un à la place, enfin voilà, donc je tiens. Et puis aussi, il n'a pas joué sur l'opinion publique, parce que l'opinion publique de certains de ces pays était intéressée par les idées de la Révolution française. L'Allemagne, malgré tout, c'est extrêmement important, hein. La Belgique aussi, enfin, je ne parle pas de la Suisse, je ne connais pas la Suisse, mais enfin, il y a un certain nombre de pays qui étaient intéressés, et donc il y avait une opinion publique. Vous citiez tout à l'heure la Russie, malgré tout ce qui s'est passé. Donc, il n'a pas joué sur l'opinion de public, il n'a pas joué sur les élites, il n'a pas joué sur les intellectuels. Moi, je pense que
le tsar, il aurait peut-être pu s'entendre avec lui. La noblesse russe, en revanche, pas du tout.
Oui, mais je dirais qu'il a un peu manqué là, de politique d'alliance et de vision géostratégique un petit peu sur avec qui je peux faire mon projet, parce qu'il avait un projet malgré tout.
Alors, sur cette question, alliances.
J'apporte une nuance, parce qu'à Tilsit, en 1807, il signe un traité d'alliance avec la Russie.
Voilà.
Il signe un traité d'alliance avec la Russie. Le problème, c'est que, d'une part, les Russes, dans une politique désormais traditionnelle, sont très méfiants vis-à-vis de la reconstitution d'une Pologne qui a été voulue par l'empereur avec le grand-duché de Varsovie. Et puis, Eric, je crois, il faisait allusion, les notables russes, la noblesse russe, les commerçants russes, ils ne peuvent pas et ils ne veulent pas appliquer le blocus continental parce qu'ils commercent beaucoup avec l'Angleterre. Et le tsar, effectivement, à la fois, il signe Tilsit, mais à l'intérieur, il est pressé par, alors, j'ose pas dire opinion publique, mais enfin, par une noblesse qui veulent effectivement continuer à commercer avec l'Angleterre. Et l'Angleterre joue aussi sur ça, puisqu'on sait qu'avant même 1812, elle finance finalement la Russie. Ensuite, l'Alliance, il en a rêvé une, parce qu'à un moment donné, il s'est rêvé avec une Habsbourg. Parce que le mariage de Marie-Louise en 1810, il est avec la cour des grands. C'est-à-dire que lui, le petit noblier au Corse, il épouse la fille de l'empereur d'Autriche. Dynastie des Habsbourg. Là, effectivement, il a cru qu'il entrait dans la cour des grands et que l'alliance allait marcher. Sauf qu'à Vienne, on lui donne cette malheureuse Marie-Louise, mais on est extrêmement méfiant.
Comme on donnait les princesses.
Voilà, on est extrêmement méfiant tout de même. Donc, il a...
C'est une politique ancienne.
Ah,
voilà,
oui.
Là, c'est une politique ancienne.
Ah, oui.
Donc, c'est un homme du passé, parce qu'il pensait créer cette alliance par cette
comme
politique de mariage,
régime, oui.
comme sous l'Ancien Régime, comme les princesses espagnoles, comme c'est changé avec
d'ailleurs,
les Français.
D'ailleurs, il a failli épouser une sœur du tsar.
Mais
ça
n'a
pas marché, mais il y a eu un projet avec la Romanov.
Ça, c'était pour moi une alliance du passé. Voilà, il n'a pas été volontariste, il n'a pas joué sur les opinions publiques qui pouvaient surgir à ce moment-là, qui étaient plus porteuses de progrès, me semble-t-il.
S'en est-il rendu compte ?
Peut-être pas. Et peut-être si on n'avait pas eu le blocus, est-ce que cela aurait été différent ?
Le blocus est, à mon avis, fondamental dans cette affaire.
Posez des questions.
Alors, il y a une chose, là, tout de même, c'est que parmi les admirateurs, même non inconditionnels, comme pouvait l'être le général de Gaulle, par exemple, il y en a qui disent « Napoléon, c'est très bien tout ce qu'il fait jusqu'en 1807. C'est à partir de 1808 que là, ça part un peu en vrille, notamment lorsqu'il met son fameux frère Joseph sur le trône d'Espagne, et puis il y a la calamiteuse campagne espagnole qui s'ensuit. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Est-ce que jusqu'en 1807, il fait un parcours à peu près sans faute ? Et après, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi, d'un seul coup, il prend des décisions qui ne vont plus être aussi bonnes qu'avant ? Est-ce que c'est la folie des grandeurs ? Ou est-ce que c'est la pression, justement, de l'Angleterre ?
Mais là, je crains qu'il y ait une relecture de l'histoire. C'est-à-dire que ce n'est que maintenant, enfin, ou du moins après, qu'on se rend compte, tiens, il y a eu une erreur là, 1807, 1808.
Oui, après coup, c'est toujours facile.
Parce qu'en
dire,
fait, je crois que ce qui se passe en 1807, 1808 est lié aussi à ce qui s'est passé auparavant. Parce que l'affaire d'Espagne est liée au blocus, qui lui-même est décidé en 1806.
Oui, lié au Portugal.
Est lié au Portugal.
L'Espagne n'était qu'un lieu de passage.
Absolument.
En fait, ce qui l'intéressait, c'était conquérir le Portugal pour établir le blocus. Et donc, il pensait... C'est là où il y a une forme de pensée très, très curieuse de se dire, je vais passer, je vais conquérir ça et je vais faire ma politique. Enfin, voilà. Donc, il y a une absence de...
Parce qu'il ne perçoit pas, il ne perçoit pas la réalité d'un sentiment national espagnol.
Absolument.
Comment il vit l'Espagne en 1808, Charles IV et Godoy. Ouais. Or, c'est quand même pas, si vous voulez, des personnes qui l'impressionnent.
Du tout.
Par contre, ce qu'il ne sent pas, c'est le sentiment religieux qui va jouer contre les Français, Napoléon antéchrist, et un clergé espagnol qui va effectivement galvaniser une résistance. Il s'en aperçoit effectivement trop tard. Mais de même pour la Russie, son grand espoir, mais là aussi, avec le recul, on se rend compte que c'est une catastrophe, c'est qu'il va vaincre l'armée russe sur le terrain et qu'on va négocier. Sauf que là, on ne négocie pas. il va rentrer dans Moscou. Et on ne négocie toujours pas. Alors, évidemment, avec le recul, on se dit quelle catastrophe, parce que là, la retraite, etc. Mais le danger, c'est effectivement de faire une relecture des événements a posteriori. Alors là, on se dit effectivement, mon Dieu, le cancer espagnol, mon Dieu, la campagne de Russie, mon Dieu, même le mariage autrichien.
Là, on a l'impression qu'il enchaîne les erreurs.
Un épisode qui pèse lourd, à mon avis, sur l'histoire nationale de la France, ce sont les 100 jours. Je suis un peu sévère sur les 100 jours. Parce que les 100 jours, donc il est à l'île d'Elbe, il rentre en mars 1815. Et là...
Le 20 mars, il est aux Tuileries.
Et oui. C'est romanesque, les 100 jours. Sauf que quoi ? D'abord, l'opinion française, oui, une partie l'accueille bien, mais il y a 20 000 hommes qui sont obligés d'être envoyés dans les départements de l'Ouest, parce que ça bouge dans les campagnes de l'Ouest. La chouannerie reprend.
Les royalistes.
De même, pourquoi il ne prend pas la vallée du Rhône et qu'il passe par les Alpes ? Vous croyez que c'est le plus pratique de passer par les Alpes ? Non, la logique aurait voulu qu'il remonte la vallée du Rhône. Oui. Sauf que la vallée du Rhône est royaliste et qu'il ne veut pas passer par là. Et ensuite, les Alliés, quand ils apprennent à Vienne que l'ogre est revenu, eh bien, il faut en finir. Il faut en finir, et j'ai le sentiment, mais là évidemment je n'ai aucune preuve, que si Waterloo avait été une victoire, la guerre aurait continué de toute manière. Je pense que les Alliés ne voulaient plus entendre parler de Napoléon. Et les Alliés sont beaucoup plus sévères avec la France en 1815 qu'en 1814.
Tout à fait.
Et même pour la Restauration, ça pèse lourd. Ah oui, parce que Louis XVIII a été fort tolérant en 1814. L'épuration est très limitée en 1814. Mais en 1815, une bonne partie des ultras et de ceux qui conseillent le roi lui disent « Sire, cette fois-ci, il faut montrer de la poigne ». Et c'est vrai que finalement, la terreur blanche de 1815 va être beaucoup plus lourde. Et c'est pour ça que l'épisode des 100 jours, c'est peut-être une épopée formidable, mais au final, ça s'avère catastrophique.
Le pays est complètement en ruine. Alors ça, peut-être les 100 jours, on peut en parler là.
Je ne voulais pas évoquer les 100 jours, Philippe l'a fait extrêmement bien, mais me rappeler aussi l'héritage du Second Empire. C'est-à-dire que Napoléon III, on renouvelle les erreurs. Je veux dire, donc il a aussi porté tort à la France avec cette famille qui revient, ce prince qui fait un référendum, qui se fait élire empereur et qui renouvelle les erreurs et qui repart dans une guerre aussi à nouveau, qui est meurtrière et qui meurtrit la France. La France, après, en 1871, c'est pas bien, donc ça va pas du tout. Bon, on peut dire que ça a permis à la République de revenir. C'est peut-être le seul intérêt. Mais ça a une portée. L'ombre que Philippe évoquait, l'ombre de Napoléon que Philippe évoquait à la suite de Chateaubriand, cette ombre, elle est allée très très loin quand même dans le 19e siècle. Elle a eu des conséquences quand même très importantes.
Le retour de la dépouille en 1840, c'est une manifestation populaire extraordinaire. Louis-Philippe, que Daniel évoquait, a un sens politique là extraordinaire, et son gouvernement, faire revenir le corps de l'empereur. Des centaines de milliers de Parisiens ou de Français viennent, les anciens grognards, on en pleure, enfin ils ont remis leur uniforme, et on le met aux Invalides. Donc en 1840, la monarchie de Juillet comprend aussi l'intérêt de cette ombre portée dont elle compte bénéficier.
Alors, il y a une chose aussi que je voulais évoquer, c'est la fascination qu'il a pu exercer sur les intellectuels, les penseurs, non seulement de son époque, mais bien après. Et là, bon, il y a des noms qui viennent d'être, on pense évidemment à Victor Hugo, mais même de son vivant, Hegel, allemand, grand philosophe aujourd'hui parmi les plus grands que l'Europe nous ait donné. Voilà ce qu'il dit après la bataille d'Iéna, donc 13 octobre 1806, Philippe Faureau l'avait évoqué. Il voit l'empereur passer sous ses fenêtres et voilà ce qu'il dit. « J'ai vu l'empereur, cette âme du monde, sortir de la ville pour aller en reconnaissance. C'est effectivement une sensation merveilleuse de voir un pareil individu qui, concentré ici sur un point, assis sur un cheval, s'étend sur le monde et le domine. Tous ces progrès n'ont été possibles que grâce à cet homme extraordinaire. » Qu'il est impossible de ne pas admirer. C'est Hegel qui a écrit ça. Et puis bon, il y aura Nietzsche derrière aussi, qui, dans Le Gai Savoir, il y a des lignes extraordinaires sur le culte qui voue à Napoléon. Victor Hugo, je l'ai dit.
Il y a le
Beethoven écrit sa symphonie héroïque pour Napoléon, mais il apprend qu'il est couronné empereur. Là, il est furieux. Mais bon, comment vous expliquez ça ? Non seulement, je veux dire, ceux de l'époque qui ne savaient peut-être pas tout ce que nous on sait maintenant, mais ceux qui, bien plus tard, seront encore fascinés par cet homme.
Les hommes qui ont une telle volonté, un tel destin, fascinent. Enfin, il y a une fascination quand même importante hein, pour toutes ces personnes-là. Il était, je crois que le débat l'a bien montré, il était un être étrange, c'est-à-dire il était à la fois issu d'une famille très modeste. Il a hérité de la Révolution française parce qu'on le créditait de porter les idées de la Révolution française. Hein. C'est pour ça que Hegel l'admirait ou d'autres Allemands l'admiraient. Et en même temps, il a été d'un tel volontarisme dans la conquête que, bon, il a une œuvre. Donc, c'est une œuvre qui est fascinante, intéressante, à une époque où ce n'est pas si facile que ça. Il y a un déterminisme quand même social qui est extrêmement important. Et puis, chacun, à sa manière, a constitué une partie de la statue. Pourquoi ? Certains avaient avantage à le faire, y compris Louis-Philippe, tu l'as montré à l'instant, ensuite Napoléon III, puis d'autres. Mais voilà, donc, il y a eu République. Quelque part une construction permanente autour du mythe hein, de l'homme extraordinaire, l'homme providentiel, l'homme politique. Hein. Hein, tel qu'on peut l'évoquer. De Gaulle, c'est normal que De Gaulle soit fasciné par Napoléon. En fait, tel que De Gaulle s'est
vécu. Avec réserve.
Oui, avec réserve.
Avec réserve, mais le président de la Ve République que nous a légué De Gaulle, cette espèce de monarque républicain, ça s'inspire de ce qu'évoquait tout à l'heure Daniel Cabani, c'est-à-dire ça réconcilie d'une certaine manière un peu certaines valeurs de l'Ancien Régime et puis de la Révolution.
Un roi ou un empereur républicain, c'est de ça dont on parle.
Et notre littérature est extrêmement influencée aussi par cela au XIXe siècle. Dans Le Rouge et Noir, Sorel est un jeune bonapartiste.
Oui, bien sûr.
Stendhal lui-même a des émotions bonapartistes parce qu'il trouve qu'après la Restauration, la Monarchie Juillet, c'est plus médiocre, etc. Chez Balzac, les descriptions des soirées où les paysans se racontent finalement la légende napoléonienne, où on fait parler le grand-père qui a fait Austerlitz et Iéna, ça joue sur toute notre littérature et une manière de se vivre français. Alors avec les défauts et les qualités.
De se vivre français grandiose.
Voilà, c'est la grandeur.
On aime bien ça.
Voilà, allez, c'est la fin de ce 35e numéro de la Mêlée de l'Info consacré à Napoléon, alors que nous allons commémorer demain le bicentenaire de la mort de l'empereur. Quoi qu'on pense de sa vie, de son œuvre, le personnage continue de fasciner deux siècles plus tard. Cette émission l'a encore montré. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à ce numéro un peu spécial. À chacun son Napoléon, à chacun sa vérité sur Napoléon, pour parolier le titre d'une pièce de Pirandello. Merci à nos auditeurs de leur fidélité. Rendez-vous la semaine prochaine. Très bonne soirée à tous. We'll be right back.